C'est une galette de cire, une de ces galettes que les abeilles fabriquent dans leur ruche. Ulysse la tourne longuement dans ses mains. Il sait pourquoi Circé lui a confié cette cire avant son départ. Elle est leur planche de survie. Il en effrite délicatement quelques morceaux, les pétrit entre ses doigts, jusqu'à former de petites boulettes. Puis il s'approche de chacun de ses hommes, un par un, et leur bouche les oreilles avec ses boulettes. Son équipage a compris. Ils savent qu'ils ne doivent sous aucun prétexte ôter ses bouchons au risque d'en mourir. Car ils approchent de rivages terriblement dangereux, ceux de l'île des sirènes. Ces cruelles créatures, mi-femmes, mi-oiseaux, sont des monstres sans pitié. On dit que leur chant ensorcelle les cœurs les plus endurcis. Ceux qui les écoutent n'en sortent jamais vivants. Ainsi, aucun être humain n'a jamais pu raconter à quoi ressemble leur voix. Ulysse, lui, veut être le premier. Lorsque les côtes de l'île menaçante se découpent à l'horizon, le roi d'Ithaque fait signe à ses hommes. C'est le moment. Les marins attrapent une corde solide et attachent leur capitaine au mât de leur navire. Les nœuds sont serrés. Ulysse aura beau se débattre, jamais il ne pourra se libérer tout seul. Une légère brise souffle dans les voiles et pousse le bateau jusqu'au pied des falaises de l'île. C'est alors qu'Ulysse commence à les entendre, avant même de les voir. C'est d'abord une mélodie envoûtante que lui apporte le vent, une de ces musiques incomparables qui versent dans le cœur une douce mélancolie. Et puis, leurs voix s'élèvent, graves et puissantes. Elles chantent, et ce qu'elles chantent est déchirant. Elles savent tout des souffrances endurées par les guerriers sous les murailles de Troie. Elles connaissent les malheurs qui frappent les marins perdus, ballottés au gré des caprices des dieux. Elles vantent le courage au combat et pleurent la mort des braves. C'est si doux et si profond que des larmes ruissellent sur le visage d'Ulysse sans même qu'il s'en aperçoive. Le vaisseau est désormais tout près de la rive et le vent est tombé. Calme plat sur la mer lisse comme un miroir. C'est alors qu'Ulysse les voit. Trois sirènes, assises au milieu d'une prairie en fleurs. Leurs ailes sont repliées. De leur poitrine gracieusement tendue, leur chant s'écoule comme un ruisseau. Ulysse rêve de s'y baigner. Il flotte dans leur voix suave qui l'enveloppe et l'envoûte. Les sirènes lui parlent. Les sirènes l'appellent. « Ô grand héros, ô vaillant Ulysse, arrête ton navire et viens nous rejoindre. Ô roi d'Ithaque, nous sommes là pour chanter ta gloire jusqu'à la nuit des temps. » Merveille, les divines ne chantent que pour lui. Ulysse, ensorcelé, hurle. Il ordonne à ses marins de le détacher. Il s'égosille. Il supplie. En vain. Son équipage, les oreilles pleines de cire et la nuque ployée sur les rames, n'entend rien, ne voit rien. Lorsque le vent a cessé et que la voile s'est mise à pendre lamentablement, d'un bond, les hommes ont attrapé les rames. Les voilà qui déploient maintenant toute leur vigueur pour arracher leur navire à ces parages maudits. Ceux qui lèvent la tête aperçoivent épouvantés les os des malheureuses victimes éparpillées autour des sirènes et le visage grimaçant, baigné de larmes, de leur bien-aimé capitaine. Ils redoublent d'ardeur. Plus les sirènes chantent voluptueusement, plus Ulysse sanglote, plus les marins appuient sur leurs rames. Bientôt, ils parviennent à éloigner leur navire des rivages des redoutables créatures. Ils sont sauvés. Les hommes se débouchent les oreilles et détachent leur capitaine. Ulysse a l'air égaré. Il observe l'horizon en silence. Son équipage n'a pas le temps de laisser éclater sa joie. En scrutant le visage soucieux de leur capitaine, fixant la mer depuis la proue du bateau, ils devinent que Circé lui a annoncé de nouveaux obstacles. C'est alors qu'un épais brouillard tombe et enveloppe le navire d'un manteau gris. Les hommes n'osent plus ramer, mais Ulysse insiste pour qu'ils reprennent leur travail, même en avançant à tâtons. Car lui sait. ils ne sont pas loin de la redoutable Charybde. Ce monstre sort le plus souvent perché au sommet de son îlot rocheux. Mais lorsqu'elle se réveille, elle ouvre sa gigantesque bouche et avale d'un coup toute la mer à ses pieds, puis le recrache aussitôt avec fracas. Elle engloutit et vomit l'océan 3 fois par jour, au dire de la magicienne, qui lui a expressément recommandé de passer au large de l'île le plus rapidement possible. Faute de quoi, leur navire serait immanquablement engouffré par la créature. Et si par miracle, il n'était pas aspiré par Charybde, il serait noyé sous les tourbillons d'eau qu'elle recracherait. Ulysse devine, au remous qui agite la coque du bateau, que Charybde commence sa longue aspiration. Il encourage ses hommes à lutter de toutes leurs forces contre le courant. Le bateau se retrouve ballotté de ci, de là, telle une coquille de noix. Les marins transpirent à grosses gouttes, mais parviennent à résister à l'implacable tourbillon. Leur navire longe désormais une autre petite île. Soulagés, ils pensent avoir échappé au pire. La brume les enveloppe toujours. Ils entendent soudain le jappement d'un chiot. Un sourire éclaire leur visage fatigué. Que vient faire ici ce petit chien perdu sur l'immense océan? Ils n'ont pas le temps de s'interroger plus avant, car un pan de brouillard vient de se déchirer. Ils découvrent, horrifiés, une hideuse créature nichée dans une grotte à mi-hauteur au-dessus du rivage. Elle tend ses 6 longs coups dans leur direction, et sur chacun, une tête terrifiante dévoile 3 rangées de dents acérées. Les malheureux viennent de tomber de Charybde en Scylla. La monstrueuse Scylla se saisit de 6 marins et les met en pièces. Ulysse hurle. Leurs appels au secours déchirant le bouleversent, mais il ne peut rien faire pour les sauver. Le roi d'Ithaque se contente d'inciter les rameurs à s'écarter au plus vite de ces sinistres parages pour éviter que la bête ne vienne se servir à nouveau. Les jappements de chiots résonnent longtemps après qu'ils se sont éloignés. Si l'étape suivante est un terrible désastre, les hommes d'Ulysse, cette fois, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, car ils ont cessé d'écouter les sages propos de leur chef. Lorsqu'une île riante et chaleureuse surgit à l'horizon, Ulysse sait qu'il s'agit de l'île d'Hélios, l'île du dieu du soleil. Circé et le devin Tirésias, avec lequel il s'est entretenu aux enfers, lui ont tous les deux formellement déconseillé de s'y arrêter. Peine perdue. Ses marins épuisés exigent d'y faire escale. Plein d'appréhension, Ulysse les supplie de ne toucher sous aucun prétexte au magnifique troupeau du dieu. Mais le vent se met à souffler contre eux et le bateau ne peut plus lever l'ancre. Tant qu'il y a encore des vivres offerts par Circé, les marins respectent l'ordre de leur capitaine. Cependant, les jours passent et les réserves diminuent. Au bout d'un mois, le bateau est toujours coincé sur ce rivage et les ventres des hommes sont vides. Chaque jour, ils regardent avec un peu plus de convoitise les bœufs qui broutent en liberté sous leur nez. Profitant d'une sieste d'Ulysse, Eurylope pousse à nouveau les hommes à désobéir. Et les voilà qui volent, égorgent et embrochent plusieurs bêtes. L'odeur délicieuse de la viande rôtie réveille Ulysse qui surgit comme un fou. « Vous avez perdu la tête » hurle-t-il. Trop tard, le sacrilège est commis. Mais on ne vole pas impunément le troupeau du dieu soleil. Hélios court se plaindre sur l'Olympe. Et Zeus, terriblement en colère, décide de régler leur compte aux gens d'Ithaque. Le vent qui les bloquait sur l'île tombe soudain. Les marins lèvent en toute hâte la voile et repartent joyeusement cingler les flots. Le maître de l'Olympe déchaîne alors son foudre, qu'il lance directement sur le navire. L'éclair fend la coque en deux, faisant exploser le navire en morceaux. Seul Ulysse parvient à saisir un bout d'épave et s'y agrippe, tandis que tout son équipage sombre. Naufragé, ballotté par les eaux, il est rejeté sur les côtes de Charybde et Scylla, parvient à leur échapper et dérive 9 jours et 9 nuits dans la mer déchaînée avant d'échouer sur l'île de Calypso. Voilà, tu sais tout de mon errance désormais. C'est ainsi que je l'ai raconté au roi des Phéaciens et à sa cour. Lui aurait bien aimé que j'épouse Nausicaa, sa fille, mais il comprit, en écoutant mon récit, combien ce rêve était impossible. Et il promit de me reconduire chez moi. Je pris congé de la princesse en la remerciant chaleureusement. Elle murmura que ma Pénélope avait bien de la chance. Je lui répondis qu'elle était bien trop jeune et jolie pour s'embarrasser d'un vieux bonhomme comme moi et qu'elle méritait mieux. Ah, Calypso, Circé, Nausicaa, sans elle, rien ne se serait dénoué pour moi. Mais je suis injuste. J'oublie peut-être la plus présente à mes côtés, ma fidèle alliée, la déesse Athéna. Heureusement qu'elle était là aussi lorsque je remis enfin le pied sur ma bonne terre d'Ithaque. Car vu la situation chaotique qui régnait dans ma demeure, il ne me suffisait pas de revenir chez moi pour que tout rentre dans l'ordre. J'étais loin de me douter à quel point ce retour serait bouleversant et périlleux.